Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 1er mars 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran estime que le moment n'est pas propice à une réunion informelle avec l'Europe et les États-Unis sur le nucléaire. La DSA syrienne a intercepté des missiles israéliens tirés sur la banlieue de Damas. Et au Nigeria, 7 personnes ont été tuées dans des attaques contre des villages du nord-ouest du pays. C'était les principaux titres, en voici le journal. L'Iran a déclaré dimanche 28 février que le moment n'était selon lui pas propice à une réunion informelle avec l'Europe et les États-Unis. Compte tenu des récentes positions et actions des États-Unis et des 3 pays européens, la République islamique d'Iran considère que le moment n'est pas propice pour organiser la réunion informelle proposée par le coordinateur européen du plan global d'action conjoint, a indiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. La semaine dernière, l'Union européenne a proposé d'assister à une réunion informelle entre l'Iran et les autres parties signataires du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Les États-Unis auraient également pu être présents en tant qu'invités. Il n'y a pas encore eu de changement dans la position ou le comportement des États-Unis, a dit M. Khatibzadeh sur le site internet du ministère. Non seulement l'administration de M. Biden n'a pas abandonné la politique ratée de pression maximale mise en place par l'ancien président américain Trump, mais elle n'a même pas annoncé sa volonté de s'acquitter de ses responsabilités globales vis-à-vis du plan global d'action conjoint et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, a-t-il déclaré. La voie à suivre est très claire, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne. Les États-Unis doivent mettre fin à leurs sanctions illégales et unilatérales et revenir aux engagements qu'ils ont contractés dans le cadre du plan global d'action conjoint. 9 avions militaires, 10 hélicoptères et des dizaines de moteurs rénovés par l'Organisation iranienne de l'industrie aérienne ont été remis aux forces armées de l'Iran en présence du général de brigade, le ministre iranien de la Défense, Amir Khatami. Le ministre iranien de la Défense a déclaré lors de la cérémonie de la livraison de ses avions et ses hélicoptères aux forces armées iraniennes. L'ennemi a tenté de vaincre l'Iran avec 2 stratégies de sanctions et de blocage de l'achat d'équipements. Mais la République islamique d'Iran s'est basée sur 3 stratégies pour contrer ses hostilités. S'appuyer sur la puissance intérieure, optimiser ses équipements de défense et de sécurité et fabrication nationale d'armes défensives. En conséquence, dans divers domaines de la guerre terrestre, maritime, aérienne, puissance des missiles et de la cyberguerre, l'Iran a pu vaincre l'ennemi.
le ministère iranien de la Défense a annoncé que les 9 avions rénovés sont des avions de chasse de type F-4, F-14, F-27 et Mirage, ainsi que des avions de transport C-130, 707 et 747. La Russie va investir dans la centrale d'électricité de Sirik. Le ministre iranien de l'énergie Reza Ardekhanian a déclaré dimanche 28 février avoir reçu une garantie bancaire de 1,2 milliard d'euros de la part de la Russie dans le cadre d'un accord déjà conclu entre les deux pays. La centrale d'électricité de Sirik sera construite dans une région du même nom appartenant à la province de Hormozgan, a déclaré le ministre, ajoutant qu'avec une capacité de 1400 MW, la centrale pourrait largement contribuer à la stabilité du réseau électrique dans le sud et dans le sud-est du pays. A noter que le district de Sirik se situe à l'est du détroit d'Hormoz, ce qui lui offre une importance bien stratégique. En octobre 2020, le corps des gardiens de la révolution islamique a inauguré une base navale à Sirik. Donc le tout récent investissement de Moscou dans le projet de Sirik pourrait également avoir une dimension militaire, d'autant plus que l'Iran et la Russie viennent d'organiser un exercice militaire conjoint dans les eaux du sud iranien. Lors de la cérémonie d'inauguration de la base navale de Sirik, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré « Cette base a été construite dans une région très stratégique au niveau de défense et d'assaut, au large du golfe Persique et du détroit d'Hormoz. » Le général Hossein Salami a ajouté que la base accueillerait des flottes de combat. La base de Sirik permet un contrôle total sur la circulation des navires étrangers dans le détroit d'Hormoz, le golfe Persique et la mer d'Oman, a souligné le général Salami. La DSA syrienne a intercepté des missiles israéliens tirés sur la banlieue de Damas. Le 28 février au soir, les systèmes de défense aérienne de l'armée syrienne ont été activés pour repousser une autre frappe israélienne contre la campagne de Damas. L'agence de presse officielle syrienne Sana a affirmé, se référant à une source militaire syrienne, qu'à 22h16, heure locale, des missiles israéliens avaient été lancés sur des cibles dans la banlieue de Damas. La DSA syrienne en a intercepté la plupart. Selon le correspondant d'Al-Alam, en Syrie, les avions israéliens ont tiré plus de 10 missiles depuis le Golan sur le sol syrien. La DSA syrienne a été activée pendant 6 minutes. De fortes explosions ont été entendues au-dessus de Damas, dû à l'interception des missiles. Le calme est revenu ensuite dans la zone. Selon le correspondant de la chaîne Al-Alam, aucun rapport précis n'a encore été divulgué sur le nombre des victimes ou des dégâts matériels éventuels. D'autres sources d'informations disent que le régime sioniste a attaqué une zone à Rif de Damas près du mausolée de la vénérée Zeynab, béni soit-elle. Ce n'est pas la première fois que les avions de combat israéliens mènent des attaques aux missiles contre le nord et l'est de la Syrie en utilisant l'espace aérien libanais. Les forces de maintien de la paix de l'ONU au Liban ont à maintes reprises annoncé qu'Israël violait quotidiennement l'espace aérien libanais en transgressant les résolutions onusiennes. Un hélicoptère des forces aérospatiales russes est écrasé dans la province syrienne de Hasak. L'incident s'est produit lors d'une patrouille dans la zone. Le pilote a été tué et le reste de l'équipage a été grièvement blessé. Selon les données préliminaires, il s'agissait d'un hélicoptère d'attaque polyvalent russe Mi-35. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été divulguées. Cependant, le ministère russe de la Défense a confirmé l'accident. Le ministère affirme que l'hélicoptère Mi-35 a effectué un atterrissage d'urgence et qu'il n'y a pas eu de victimes. L'hélicoptère des forces aérospatiales russes effectuait une mission de patrouille dans la province de Hasak afin d'identifier les terroristes et les éliminer. Et au Nigeria, 7 personnes ont été tuées et une autre blessée dans des attaques distinctes contre des villages dans l'état nigérian de Kaduna, nord-ouest, a indiqué un officiel nigérian. Les assaillants étaient des bandits présumés ayant visé 2 villages de la région du gouvernement local d'Igabi et un autre de la région du gouvernement local de Kajuru, a indiqué Samuel Arouvan, commissaire de l'État chargé de la sécurité et des affaires intérieures. La personne blessée est en train d'être soignée dans un hôpital local, a-t-il dit sans livrer de détails supplémentaires. Les forces de sécurité locales ont ouvert une enquête sur ces attaques, a indiqué M. Arouvan. Cette région du Nigeria est en proie au banditisme, aux enlèvements et à d'autres activités criminelles depuis plusieurs années. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. L'histoire d'une petite entité factice qui se croyait trop maligne. Décidément, l'entité sioniste est sous le feu de la rampe satellitaire. Quelques jours après la publication des photos satellites de Dimona et de son extension par l'AP, alors même que ce dimanche de nouveaux clichés secrets sur les capacités balistiques israéliennes viennent d'être diffusés, Sentinel, une autre société d'imagerie satellitaire, a publié les dernières photos de Elias Ray. Attaqué il y a 72 heures, alors qu'il s'apprêtait à traverser le détroit d'Hormuz, trop confiant d'avoir réussi à occulter à la fois sa nature, son appartenance et sa mission. La mystérieuse explosion qui a laissé deux trous de 1,5 mètre de diamètre sur le navire de guerre logistique d'Israël, déguisé en navire cargo et occulté sous le pavillon britannique, s'est produite au large d'Oman, alors même que le bâtiment avait quitté Dama en Arabie des Salman et qu'il disait se diriger vers Singapour. Désormais, les Israéliens ne peuvent parler d'une seule explosion puisque les cartes satellites en ont enregistré plusieurs. Le soir de l'incident, le méga-parking flottant, visiblement bourré d'appareils et de pièces d'écoute et d'espionnage, a même cherché une fois les explosions produites à se sauver des eaux de la mer d'Oman et à se rendre dans l'océan Indien pour se faire aider par la flotte US, mais la frappe a été si forte que les 28 membres de l'équipage, en nombre desquels figuraient des officiers de renseignement israéliens, en ont perdu le latin et se sont dirigés vers Fujairah. Certes, le port émirati pourrait avoir été finalement leur destination, vu que la mission de Elias Ray consistait à livrer des équipements d'espionnage aux Émirats. N'empêche que l'avertissement semble avoir bien compris à Tel Aviv. Silence radio sur l'affaire. Aucune partie n'a revendiqué les explosions, mais ceci n'est pas le vrai enjeu. L'enjeu est de savoir comment une mastodonte de 36 mètres de haut, bourrée de radars et de senseurs et bénéficiant de l'appui satellite, a été soudain stoppée, ce qui prouve, comme le dit Haaretz, que les auteurs auraient pu faire plus et le faire tout bonnement couler. Une délégation d'experts israéliens est arrivée le dimanche 28 février à Dubaï, à qui les membres d'équipage avaient lancé un SOS le soir de l'incident, demandant un accostage urgent et des réparations rapides. Certaines sources évoquent que le navire logistique israélien serait en soi une base d'espionnage flottant et que les explosions auraient visé des parties indispensables à la mission de collecte d'infos et d'espionnage avec une précision inouïe. Ce dimanche, la presse sioniste parle non plus de mines marines, mais de missiles de croisière, tout en poursuivant frénétiquement à mettre des liens de fait à cause entre ces explosions et l'assassinat du physicien en chef iranien le 27 novembre par le Mossad, jurant leur bon Dieu que c'est là la riposte iranienne à cet assassinat. Surtout que le propriétaire sioniste du navire a des liens de parenté avec Yossi Cohen, qui se vante toujours d'avoir décapité au terme d'une opération complexe de 2 ans le programme nucléaire iranien, bien que ce programme continue à avancer à un rythme fou avec en toile de fond un uranium bientôt à 60% enrichi. Reste que l'attaque du 25 février en mer d'Oman dépasse un peu l'entendement. Les experts israéliens ne comprenant toujours pas comment les assaillants ont fait pour frapper le bâtiment des deux côtés. C'est sans doute par crainte de commettre une imprudence et de donner au camp d'en face et de façon involontaire des renseignements qu'Israël a évité jusqu'à présent de rendre public la photo de l'extérieur du bâtiment, là où les points d'impact sont visibles. Yossi Cohen a effectivement du mal à comprendre comment les assaillants se sont si superbement infiltrés son appareil de renseignement pour identifier le navire, sa cargaison, son trajet et surtout coordonner le tout de sorte que juste avant qu'il ne passe à l'essentiel, c'est-à-dire espionnage, il soit arrêté net. Et puis, cette question particulièrement périlleuse. Les navires et cargos israéliens risquent-ils désormais connaître le même sort en mer d'Oman, en mer Rouge, en océan Indien, voire en Méditerranée?
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 28 février 2021. Le président américain Joe Biden a ordonné des frappes aériennes contre des installations appartenant à des groupes de résistance à la frontière de la Syrie avec l'Irak dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette agression militaire, la première du genre sous la nouvelle administration américaine, a suscité des condamnations internationales. La République islamique d'Iran a fermement dénoncé ces agressions, avertissant qu'elles ne feraient qu'attiser les conflits et de déstabiliser en effet la région. La Russie et la Chine également ont condamné en effet ces frappes aériennes, prévenant que ces frappes constituaient en effet une violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces premières frappes aériennes américaines contre la Syrie sous le mandat de Joe Biden. Leurs répercussions, la réaction des groupes de résistance et bien entendu, en effet, la politique étrangère de la nouvelle administration américaine, notamment en ce qui concerne en effet la politique syrienne de la Maison-Blanche. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Cette première frappe militaire de l'Amérique de Biden contre l'axe de la résistance que les médias mainstream décrivent comme étant à la fois défensive, précise et calibrée pour pas qu'il n'y ait un embrasement avec l'Iran et ses alliés que Biden drague en ce moment avec des tas de vrais faux carottes enfouies dans son sacoche est une cata dans le vrai sens du terme. Pourquoi ? Diplomatiquement parlant, le raid qui a été lancé en riposte, selon le couple Austin-Biden, aux frappes aux missiles visant la base US à Erbil, suivi des tirs de roquettes contre la base de l'US Air Force à Balad, et puis celle de l'US Army dans la zone verte surnommée ambassade US, n'a été en rien plus sécurisant. Les F-16 israéliens ayant agi en janvier depuis le ciel de la Jordanie se sont littéralement heurtés à ce qui paraissait comme étant une forme de DCA, ce qui vient très exactement arriver aux deux F-15 Eagle américains ayant décollé dans la nuit du 25 à 26 février de la Jordanie. La première nouvelle frappe américaine contre la Syrie s'est avérée totalement inutile. Non parce que le Pentagone a voulu lancer des raids précis évitant des pertes, mais parce qu'il en a été empêché. Les chasseurs de l'US Air Force ont lancé une série d'attaques puissantes de missiles et de bombes sur une base militaire iranienne en Syrie, à la frontière avec l'Irak, et pourtant, à en juger les rapports et les images en provenance de la zone de frappe, les dégâts du raid aérien américain sont particulièrement minimes. Elle cite d'ajouter « Tout ce qu'on voit, c'est un poste de contrôle et une remorque mobile qui ont été détruits. Il aurait dû y avoir quelque chose qui a très sérieusement interféré avec les chasseurs américains et apparemment, on parlerait de dispositifs de suppression et de brouillage iraniens ayant visiblement visé cette E-11A Battlefield Airborne Control Node BACN. En termes de précision, la comparaison est impossible. Les roquettes iraniennes ont largement mieux fait que les missiles Ersol américains. Et dire qu'Oharir est l'une des bases militaires les mieux loties des États-Unis au Moyen-Orient et que les 24 roquettes en question auraient là encore atteint le cyber-QG de la CIA avec en toile de fond un Super KC-35 RQ abattu. En attaquant les alliés irakiens de l'Iran en Syrie, le Pentagone a commis l'erreur d'embraser parallèlement ses deux fronts et placer ses troupes entre deux feux.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, et depuis Damas, Maître Arnaud Develay, juriste international et spécialiste des questions internationales. Maître Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Mme Armidani.
On s'y attendait peut-être, Maître Develay, les premières frappes aériennes américaines contre la Syrie, sous le mandat de Joe Biden. Ces frappes, d'abord, qu'est-ce qu'elles disent sur l'approche de la nouvelle administration américaine en matière de politique étrangère en général et plus particulièrement sur le plan de la politique syrienne, en effet, de Joe Biden?
Écoutez, à titre préliminaire, nous devrions faire un peu de droit international et expliquer la rationnelle de mise en avant par l'administration Biden, qui fait écho à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, laquelle permet à un État de se défendre contre toute agression. On en est déjà à la première question, c'est de quelle agression s'agit-il portant sur ces frappes, qui seraient donc défensives en nature. Il est fait état des attaques à la roquette sur les bases américaines à Erbil ainsi que dans la zone verte, mais ceci, ces attaques sont à des centaines de kilomètres du site qui a été frappé, donc on ne voit pas trop le rapport. La proportionnalité et si vous voulez la congruence de l'action n'a aucun sens si on s'en tient aux affaires qui ont été traitées dans le cadre de l'autodéfense. Laquelle doit être proportionnée et doit être simultanée par rapport à une attaque dite imminente. Donc là, on a une déconnexion totale entre les événements qui sont cités. Et surtout, le plus incroyable, c'est que cet acte d'autodéfense des États-Unis intervient d'une part sur le territoire d'un pays tiers, alors qu'ils se plaignent d'attaques qui auraient eu lieu en Irak, ils envoient leur représailles entre guillemets sur un territoire tiers qui est celui de la Syrie. Et la deuxième, c'est que ils oublient une chose, c'est difficile pour un État d'invoquer l'article 51 quand on est soi-même une puissance occupante, ce qui a été documenté et ce qui a été mis en avant encore une fois par la résolution du Parlement irakien qui demande expressément que les États-Unis quittent le pays. Donc les États-Unis sont une puissance occupante. Les soi-disant milices pro-iraniennes, qui est encore, faut être très prudent avec cette sémantique, parce que ça laisse entendre que ce sont des instruments ou des organes, des instrumentalités de la République islamique d'Iran, alors qu'il n'en est rien. Ce sont des mouvements de la résistance irakienne, donc des Irakiens, qui fonctionnent plus ou moins en coordination avec l'armée nationale irakienne. Qui combattent le terrorisme et qui sont d'ailleurs en grande partie responsables pour la défaite de l'État islamique en Irak. Donc c'est difficile à partir de là de reprocher à des Irakiens de vouloir libérer leur pays. Or, les États-Unis, quelque part, laissent entendre que ils seraient la partie victime, qu'ils seraient dans leur bon droit et qu'ils seraient en fait eux-mêmes une victime, si je puis dire, alors que les victimes sont les Irakiens. Les Irakiens défendent l'intégrité territoriale de leur pays. Les États-Unis, après avoir pris acte de la loi passée par le Parlement irakien, n'obtempèrent pas. À partir de là, le droit international coutumier donne l'autorisation aux Irakiens de prendre les choses en main militairement. Si les Américains considèrent que le fait de vouloir libérer leur pays rend les Irakiens et comme étant responsables, comme étant des agresseurs, ils n'ont rien compris au droit international, de toute évidence. On est en pleine hypocrisie. Maintenant,
Je vous remercie infiniment. On reste là, Maître Develay. On va continuer. Donc, on va tout de suite se rendre à Paris pour rejoindre Madame Midani, Aïssar Midani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Midani, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci à vous. Merci de l'invitation. Bonjour à Monsieur Develay. Et voilà, donc à vous, à tous les téléspectateurs.
Madame Midani, Maître Develay a très bien décrit la situation, cette déconnexion des événements en Irak et en Syrie, à savoir bien sûr des attaques contre les bases militaires américaines en Irak, dans la zone verte, et puis cette agression, ces frappes aériennes américaines contre les installations appartenant à des groupes de résistance à la frontière de la Syrie avec l'Irak. Là, selon certaines informations, Madame Midani, les États-Unis, l'armée américaine procéderait en effet au transit des transferts en effet des terroristes de Daesh. Donc, et justement à la frontière entre les deux pays, entre la Syrie et l'Irak, les groupes de résistance étaient bien installés pour justement empêcher ce transit. Là, ce serait ces frappes en quelque sorte bien une manière d'appuyer bien sûr les terroristes. Et ceci étant dit, est-ce que ces frappes constituent une fuite en avant de la part de la nouvelle administration américaine ou plutôt un aveu d'impuissance face aux groupes de résistance, que ce soit en Irak ou en Syrie?
D'abord, permettez-moi, je voudrais adresser aussi un grand salut au grand résistant Anis Naqash qui nous a quittés ces derniers jours. Et c'est un grand résistant du front de la et stratège du front de la résistance. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je pense que ces attaques prétendues par les États-Unis contre la zone verte et puis leur base à Erbil, elles n'ont jamais été revendiquées par quiconque. Et puis donc, je pense que ce sont eux qui l'ont provoqué, ce qui est dans les habitudes, pas seulement américaines, mais sionistes aussi. Ils prétextent de certaines attaques ou ils les font eux-mêmes. Et ils les organisent et puis ils agressent qui ils veulent en l'accusant d'avoir commis ces attaques. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, les agressions contre l'armée irakienne et l'armée syrienne ont été, sont des habitudes, je dirais, des Américains à chaque fois qu'ils sont sur le point de vaincre Daesh ou de faire vraiment mal à certaines bases de Daesh et arrêter leur mouvement, leur stratégie. À ce titre, d'ailleurs, je voudrais rappeler quand même certains événements, les bombardements de l'armée syrienne lorsque Adderzour, en fait, lorsqu'elle arrivait à la montagne Asarda alors que Daesh était sur la défensive, était en train d'être complètement vaincu. Après la libération de la Syrie et de l'Irak, de Daesh totalement, les Américains ont relancé Daesh. C'est croire qu'ils regrettaient énormément que Daesh soit vaincu et que le pays soit nettoyé de toutes les forces terroristes. Ce sont les Américains qui ont commencé à retransporter à nouveau des terroristes par hélicoptère et les transférer aussi bien de certaines bases jusqu'à la Syrie et jusqu'à l'Irak. Il est certain aussi, je voudrais rappeler aussi, que les Américains veulent à tout prix garder Daesh, puisque c'est un petit peu la raison qu'ils invoquent pour rester en Irak, hein, alors que, effectivement, l'Assemblée nationale irakienne a décidé de toute façon que le départ total de toutes les forces d'occupation américaines. Et là, donc, le fait d'avoir relancé et réactivé Daesh, ce sont les Américains essayent de se trouver une raison auprès de certains alliés qu'ils ont au sein de l'Irak pour justifier leur présence et donc, soi-disant, dans la lutte contre le terrorisme. Dernier point que je voudrais évoquer aussi et qui est très très important à voir, c'est que depuis toujours, hein, depuis donc l'agression de la Syrie et l'agression de l'Irak, les États-Unis veulent absolument empêcher qu'il y ait une communication totale, en fait, des routes de communication entre la Syrie et l'Irak, puisque ce sont des routes qui permettent effectivement à ce que les deux pays puissent se donner la main pour lutter contre les déjà une coopération économique, politique, militaire, et aussi une sécurisation des deux territoires contre toute force occupante et toute force terroriste. Donc, ils ont toujours essayé de bombarder justement ce passage Al-Qa'im, Boukamal. Ils occupent Al-Tanf, le deuxième passage, en fait. Ils y ont construit une base américaine et qui devient une véritable base terroriste d'entraînement, de recrutement, etc. Je rappelle que cette base, elle est à côté du camp Rukban, qui est dominé par Jabhat al-Nusra aussi. Et le passage dans le nord, passage Al-Walid, dans le nord-est de la Syrie aussi, entre l'Irak et la Syrie, qui est un passage aussi complètement illégitime qu'utilisent les Américains pour transférer matériel et munitions, armes et terroristes, sous la protection d'ailleurs des hélicoptères américains dans la région d'Al-Jazeera.
Merci infiniment pour ces précisions, Madame Idani, restez avec nous. Maître Develay, alors, les groupes de résistance ont souligné que les agressions américaines ne resteraient pas sans réponse. Ceci étant dit, à quoi il faudrait s'attendre? En d'autres termes, quelles seront les retombées de ces agressions américaines sur les évolutions en Syrie, mais aussi en Irak, et surtout à la frontière dans la région de Boukamal, à la frontière entre les deux pays?
Écoutez, Madame Idani l'a très bien souligné, le site choisi pour les phares par l'administration Biden n'est pas un hasard. Mm-hmm. Il s'agit exactement du point de passage entre l'Irak et la République arabe syrienne. Il s'agit d'un point névralgique stratégique qui doit être considéré comme de la plus haute importance quant à la capacité pour la résistance de pouvoir le garder sous contrôle. Et les Américains ont bien compris que tout se joue dans le contrôle de la frontière entre les deux pays. Visiblement, cette frappe traduit une certaine frustration de la part des Américains, dans le sens où leurs convois sont systématiquement harcelés depuis plusieurs semaines déjà par la résistance irakienne dans la province d'Anbar, mais aussi dans d'autres provinces au nord, le long de la frontière, parce que effectivement, dans la mesure où il est hors de question de revivre ce qui s'est passé depuis près d'une décennie maintenant, les objectifs de la résistance consistent, sur la base du renseignement militaire, à identifier tous les convois américains susceptibles de transporter clandestinement des éléments terroristes afin de tuer dans l'œuf toute tentative de déstabilisation. Les Américains, s'apercevant que cette méthode ne marche plus, décident de prendre, si je puis dire, d'escalader la situation en bombardant directement la résistance de façon à essayer de faire monter la sauce. Qu'est-ce qu'on peut anticiper à l'avenir? Probablement une accentuation de la situation, des attaques, de la résistance coordonnant ces actions pour non seulement empêcher les terroristes d'être redéployés à nouveau, mais surtout probablement augmenter la pression sur les bases américaines par le biais des systèmes balistiques.
Merci, merci encore. Une toute dernière question à Mme Idani. Mme Idani, il paraît, contrairement à ce qu'attendent en effet les Américains, ces frappes aériennes auront en effet un effet inverse. Maître de Velay l'a rappelé, une accentuation en effet, un renforcement plutôt du front, de l'axe de la résistance. À quoi il faudrait s'attendre sur le terrain, Mme Idani?
Ben de toute façon, effectivement, l'axe de la résistance a affirmé, en fait, l'ensemble des pays, je dirais, ont toujours affirmé que de toute façon, quelle que soit l'attaque, la riposte viendra de l'ensemble des pays du front de la résistance. Donc là, c'est clair que toutes les attaques, effectivement, elles vont renforcer la stratégie de défense à la fois militaire, économique, politique et surtout une stratégie d'avenir, je dirais, de l'ensemble des pays, l'Iran, l'Irak, la Syrie et puis le Liban aussi, parce qu'on voit aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi aujourd'hui une généralisation des attaques, en fait, contre le front de la résistance. On voit que les déclarations au Liban et puis la pression qui est mise aussi sur le Liban pour internationaliser les interventions et essayer d'utiliser les forces extérieures contre la résistance à l'intérieur du Liban. Le fait d'accentuer aussi non seulement cette guerre terroriste horrible qui est menée depuis 10 ans contre la Syrie, donc maintenant la guerre économique qui est accentuée encore plus tous les mois et à chaque période pour étouffer le peuple syrien, l'empêcher de manger, l'empêcher de se chauffer, etc. On voit aussi qu'il y a des arraisonnements, en fait, même des renforts qui viennent de l'extérieur pour aider le peuple syrien en produits pétroliers, etc., qui sont bloqués dans les mers. On voit une accentuation, une relance de Daesh, etc. Donc, il y a une multiplication, je dirais, des agressions contre le front de la résistance, sans parler aussi de toutes ces... ces alliances qui ont été faites avec Israël, qui leur permettent aussi d'être présents sur les rives du Golfe et sur les rives de la mer Rouge au Yémen. Mais en même temps, la résistance dans tous les pays aussi bien, je voudrais quand même aussi rappeler cette agression qui devient de plus en plus forte aussi contre le peuple palestinien pour la construction de colonies, dans toute la région, il y a une généralisation de l'agression, mais c'est sûr qu'il y a aussi une généralisation et un renforcement de la résistance et des ripostes. Je voudrais saluer aussi les Yéménites qui ont envoyé aussi des drones contre les aéroports plusieurs aéroports en Arabie Saoudite. On voit aussi la riposte qui s'organise aussi donc entre la Syrie, l'Irak et le Liban, malgré les coups où ils essayent de mettre un peu en difficulté la résistance libanaise. Donc tout ceci, je suis sûr que de toute façon, l'ensemble des pays du front de la résistance vont riposter dans une manière je dirais avec patience, mais avec une stratégie.
Merci.
Et avec aussi des coups qui feront vraiment mal aux agresseurs, aux Américains, qui utilisent aussi Qassad FDS et les Turcs, leurs alliés turcs dans la région.
Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, Maître Arnaud Develay, juriste international depuis Damas, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Et de votre attention, excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Comme nous vous l'avons dit dans les dernières émissions, la province de Fars se situe dans une région montagneuse. La chaîne montagneuse de Zagros s'étire du nord-ouest au sud-est de la province. Il y a aussi des régions moins hautes et des monts moins élevés. Vu sa vaste superficie, le Fars est doté d'une diversité climatique très unique. Il regroupe trois régions climatiques distinctes et une diversité de nature et d'animaux. Cette diversité environnementale a créé donc l'un des plus beaux parcs naturels de l'Iran qui s'appelle Parc Bamou. Vu l'importance de ce parc du point de vue des attraits écotouristiques, nous avons décidé de vous en parler dans cette édition. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Dans le nord de la province de Fars et le nord-est de son chef-lieu Shiraz, il se situe le parc naturel Bamou. Il est divisé par la route Shiraz-Ispahan, à deux secteurs oriental et occidental. Sa distance avec Shiraz est estimée à 5 km. Le parc national Bamou avait été annoncé en 1962 comme une zone close interdite. Il mesurait à l'époque plus d'un millier d'hectares. Avec l'augmentation de la population et l'extension de Shiraz, sa superficie s'est peu à peu réduite pour se transformer en 1967 en une zone protégée. Quelques années plus tard, Bamou est devenu un parc national. Sa superficie est estimée à présent à plus de 40 000 hectares et il abrite trois chaînes montagneuses qui s'étirent parallèlement de l'est à l'ouest. Le plus haut endroit du parc, c'est le sommet du mont Bamou avec une altitude de 2700 mètres. Le mont Bamou se voit bien de la ville de Shiraz. Entre les monts et montagnes de Bamou, il existe des plaines étroites qui abritent nombre considérable de gazelles. Sur les collines et en bas des montagnes, on remarque de nombreux béliers et brebis. De même, ce parc, vu ses rochers particuliers, est un endroit environnemental propice à vivre pour les chèvres et les pagènes sauvages. D'après les études effectuées,
32 espèces de femelles existent dans ce parc. 91 espèces d'oiseaux et 19 espèces de reptiles et 3 espèces des amphibiens, ce qui témoigne de la diversité d'animaux dans ce parc. Il est aussi à noter que 18 espèces d'oiseaux protégées, 8 espèces d'oiseaux en danger d'être disparues et 4 espèces de femelles protégées ont trouvé un endroit sûr à vivre dans ce parc national naturel. Il existe également des loups, des chats sauvages, des chacals, des renards, des léopards, des hyènes, sans oublier des oiseaux tels que aigre d'or, perdrix, perdrix grise, coquard, dalle-dalle et balbalane. Quant à la couverture végétale, la température agréable et convenable de la région laisse une diversité végétale considérable à remarquer dans le parc Bamou. Le printemps du parc Bamou est couvert de primes vertes, de tulipes et de coquelicots, un très beau paysage à jamais oublié. On a aussi distingué plus de 300 espèces de plantes aptes à la nourriture des bétails et aussi avec des caractéristiques et valeurs médicales. La diversité animale et végétale de ce parc compte parmi les points forts qui attirent les écotouristes ainsi que les touristes iraniens et étrangers. Outre les gens qui viennent en famille passer de moments agréables dans ce parc, en pleine nature, à côté des animaux et des oiseaux, le parc Bamou constitue un endroit particulier pour les recherches scientifiques sur les animaux et les plantes. Un autre écosystème sans équivoque de la nature de l'Iran qui se trouve dans la province de Fars, c'est le lac de Barteghan. Le lac fait partie du parc national Barteghan. Barteghan était considéré depuis 1968, du point de vue géographique et écologique, comme une zone protégée et s'est transformé depuis 1995 en un parc national. Le parc national de Barteghan est doté d'une superficie de plus de 117 000 hectares. Son altitude est estimée de 1560 à 2480 mètres. Les pluies annuelles sont de 330 mm et la température moyenne est de 15 degrés centigrades. Toutes ces conditions climatiques ont fait une région sèche, désertique et tempérée dans ce parc. Le lac national de Barteghan comprend un lac et des terres montagneuses ainsi qu'une colline dans le nord qui est le refuge des animaux. L'eau du lac est sucrée lorsqu'elle se verse dans les rivières, mais elle est salée. Le lac de Barteghan, avec la profondeur de 3 mètres, crée avec le lac Tachak, et cela dans les années plus pluvieuses, un lac plus grand. Diverses plantes existent plongées dans l'eau du lac. Sur la terre, il existe des espèces végétales de bananes, amandes, gaz et thym. Les îles du lac de Barteghan constituent aussi un endroit apte à vivre aux oiseaux migratoires et locaux, ce qui a fait de ce parc un endroit environnemental important considéré par les organisations internationales de vie d'oiseaux. Diverses espèces d'animaux telles que chèvres, pajanes, béliers, brebis, léopards, flamencos, canards, pélicans blancs, vautours, tortues et poissons capours existent dans cette région. Il se trouve également nombre de crevettes artémia dans le lac. La diversité environnementale et biologique et naturelle de cette région permet aussi les activités scientifiques et de recherche sans oublier tous ses attraits touristiques. Parmi les autres paysages naturels de la province Fars, nous pouvons évoquer le paradis perdu qui se trouve à l'ouest de Shiraz. C'est une très belle vallée d'une hauteur de près de 1800 mètres. L'un des plus beaux de la région, ce site naturel est couvert de forêts d'amandiers et de châtaigniers. Les cours d'eau qui s'y diversent, la végétation verdoyante et abondante créent des paysages paradisiaques. Cette région est particulièrement appréciée en été par les amoureux de la nature qui viennent y camper. Il y a aussi le lac de Mahalou, situé à 27 km au sud-est de Shiraz. Le lac d'eau salée, dont les habitants de la région tiraient du sel en été, est devenu, grâce à une eau plus abondante, un lieu de prédilection pour les oiseaux migrateurs. Et enfin, le lac Parishan, une des régions protégées d'Iran, qui se trouve au sud des montagnes de Zagros, à 60 km à l'ouest de Shiraz et à 12 km de Kazeroun. Cette région était aussi la région des lions iraniens, dont l'espèce a disparu. Sa profondeur moyenne est de 1,6 mètre et atteint certaines années 2 mètres de profondeur. Ce lac d'eau douce, non potable, est le lieu de vie de poissons et d'oiseaux migrateurs, lui donnant une valeur écologique particulière. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.
Thank you.